Bienvenue dans un tout nouvel épisode de ce podcast dans lequel j'échange chaque semaine avec une personne inspirante qui est devenue libre selon sa propre définition grâce au code. Aujourd'hui, je reçois Erwan, développeur mobile depuis plusieurs années, à la fois en freelance et dans une startup aux US. On va donc parler de sa vision du freelancing et de comment il fait pour trouver ses premières missions et pour gérer ses projets perso en parallèle. Erwan nous explique aussi, selon lui, quelles sont les compétences nécessaires pour devenir développeur freelance et comment se lancer dans l'aventure. Si ce podcast vous plaît, n'hésitez pas à nous le faire savoir en donnant votre avis sur Apple Podcast. Et en attendant, je vous laisse apprécier mon échange passionnant avec Erwan. Salut Erwan, merci d'avoir accepté l'invitation pour un nouvel épisode de ce podcast. Je te propose de commencer tout de suite par te présenter rapidement, nous expliquer un peu qui tu es et ce que tu fais aujourd'hui.
Ok, pas de souci. Je m'appelle Erwan, j'ai 25 ans et je suis développeur mobile natif, donc principalement Android. J'ai fait un peu d'iOS natif il y a quelques années, mais c'est vrai que je me suis plus focus sur Android. Un peu de cross-platform, notamment ces derniers temps avec du Flutter. Et aujourd'hui, je bosse pour une startup américaine, enfin créée par des Français, mais qui est basée aux États-Unis. Et à côté de ça, j'ai toujours mes projets perso liés au développement.
Est-ce que ça fait longtemps que tu bosses entre guillemets en indépendant, à distance comme ça, sur des projets pour des clients ?
Ouais, ça va faire bien, je dirais 3-4 ans, même un petit peu, ouais non si, 3-4 ans à peu près. J'ai commencé à faire ça quand j'étais encore en études, quand j'étais encore en école d'ingé justement. Je me suis informé un petit peu sur le tas, et voilà, j'ai vu qu'il y avait la possibilité de faire des projets en free, etc. Et après m'être bien formé, je me suis dit pourquoi ne pas commencer pendant que je suis encore en études. Ça me permettra par la suite d'avoir déjà de l'expérience, déjà un petit réseau. Donc ça fait bien 3-4 ans qu'on va dire que je fais un petit peu des projets à droite à gauche, que ce soit du freelance ou du travail à distance, ce genre de choses, quoi.
Ok, et est-ce que tu peux rapidement revenir un peu sur cette période de tes études, donc en parlant à la fois des études, ce qu'elles t'ont apporté, mais aussi de comment ça t'est venu l'idée en fait de travailler en freelance, de travailler pour un client, et surtout de travailler en parallèle de tes études, parce que bon, une école d'ingénieur, c'est peut-être pas non plus la filière qui demande le plus de travail, mais ça demande quand même, on est occupé une bonne partie de la journée, quoi.
J'ai eu plusieurs phases où j'ai eu un état d'esprit un peu différent. Où la première phase, où quand j'ai commencé mes études, qui était à la base, j'ai fait un DUT, j'enchaînais qu'une licence, donc en informatique. Et mon objectif à la fin, c'était d'obtenir mon diplôme et d'avoir un poste d'ingénieur en CDI, le petit, entre guillemets, le cliché, on va dire, de la vie parfaite, d'avoir mon petit job, ma petite maison, etc. Et en fait, c'est pendant mon stage de licence, je crois, ouais, c'était ça, pendant le stage de licence, en fait, mon maître de stage était lui-même habituellement, et ils étaient en train de monter une petite start-up, et donc il travaillait temporairement là, et en fait, c'est lui qui m'a fait découvrir un petit peu le monde du freelance, la liberté de pouvoir travailler un petit peu d'où tu voulais, avec qui tu voulais, etc. Et il m'a un petit peu expliqué son fonctionnement, c'est lui qui m'a donné ma première, entre guillemets, mission, parce que c'était une mission qu'il avait lui de son côté, et il devait faire de l'intégration. Donc à l'époque, c'était du web, je faisais pas encore trop de mobile, donc c'était du web, et il y avait une petite intégration. Il avait clairement la flemme de le faire, donc il m'a proposé de sous-traiter, et c'est à ce moment-là que je me suis dit j'ai pas spécialement envie d'avoir un CDI, mais travailler en freelance sur des projets qui me parlent, qui me plaisent, avec des gens avec qui je m'entends vraiment. Et donc, c'est à partir de ce moment-là où je me suis dit, en fait, c'est ce que je veux faire. Et j'ai commencé à travailler un petit peu à côté de mes études pour me former et être un peu plus pro. Parce que je me suis dit, je suis encore en études, donc ça va être un peu compliqué de me vendre auprès de clients. Et c'est à partir de là où je me suis dit, je vais essayer d'aller trouver des clients, un petit peu réseauter pour voir ce que je pourrais faire à droite à gauche. Et en fait, être prêt quand j'aurai mon diplôme pour pouvoir le faire à temps plein, quoi.
Ouais, ok. Et alors, j'allais te demander, en fait, comme toi, t'es un peu rentré dans le monde du freelance, entre guillemets, un peu par hasard, ou en tout cas c'était une opportunité qui arrivait vers toi plutôt que toi qui poursuivais en fait ce mode de cette façon de travailler. Du coup, en fait, j'allais te demander, est-ce que ça t'a fait peur au début quand tu t'es lancé dans ce monde-là, mais enfin, t'as un peu répondu à la question quand tu m'as dit je veux professionnaliser ce truc-là en mode ok. Là, j'ai eu peut-être une ou deux premières missions qui ont été faites bah, parce que j'avais l'opportunité, qu'on m'a proposé, et puis que c'était aussi un peu. Enfin, il y avait déjà une confiance qui s'était installée. Mais est-ce que après ces premières missions ou qui sont venues à toi et au moment où tu as voulu commencer à chercher des missions, est-ce que tu as eu certaines peurs de peut-être pas être légitime ou de pas pouvoir respecter des délais ou alors de t'engager dans un truc que tu n'arriverais pas à tenir?
Ouais, ça m'est arrivé pas mal au début où en fait j'avais un peu peur des projets que je pouvais trouver, parce que c'est vrai que quand j'ai fait mes premières missions données via mon ancien maître de stage, c'était du web, mais j'avais commencé à me former au mobile et je m'étais dit en fait je voulais me spécialiser dans le mobile et donc avoir des missions mobiles. Et en fait j'avais comme tu disais, hein, j'avais peur en fait de pas avoir toutes les compétences requises, parce que c'est vrai que j'ai vu des offres de missions et j'ai été en contact avec des personnes dont ça n'a pas forcément abouti, mais qui avait des projets et qui, par rapport à mes compétences de l'époque, étaient clairement au-dessus. Et en fait, j'ai un petit peu pallié à ça en me disant, pendant les moments où j'aurai pas de mission, où j'aurai du temps libre, en fait, je vais me former le plus possible à des trucs qui sont communs et demandés. Notamment, par exemple, pour du mobile, tout ce qui était, ouais, j'ai un peu, tout ce qui était connexion aux réseaux sociaux, par exemple, j'avais jamais vu en cours, j'avais jamais spécialement fait. Et je m'étais dit, voilà, c'est quelque chose qui est grandement demandé. C'est un petit peu le truc de base dans une application. Donc, je vais me former là-dessus. Je vais voir comment ça fonctionne. Et en fait, j'enchaînais les micro-projets, en fait, sur des trucs spécialisés. Et je me disais, en fait, le plus de projets que je vais faire dans mon coin, le plus j'aurai de chances de pas être perdu quand j'aurai une vraie mission. En fait, ma peur, c'était d'arriver dans un projet et d'avoir un truc en particulier que je ne saurais pas faire. En soi, c'est pas quelque chose de très grave parce que je peux toujours apprendre sur le tas. Mais j'avais vraiment peur que ça fasse pas professionnel, en fait, de me dire que j'arrive, je vais faire un projet et qu'en fait, à un moment T dans le projet, il y a quelque chose que je sais pas faire. Il va falloir que je cherche, ça va me prendre plus de temps. Je pense que c'était ma plus grosse peur à ce moment-là, quoi.
D'accord. Donc ça, c'était ta peur avant de commencer un projet ou dans les premières étapes du projet. Est-ce que c'est une peur qui s'est avérée réelle? Enfin, est-ce que tu t'es un moment confronté à une situation où tu avais peut-être mal estimé la charge de travail ou alors il y avait un truc que tu n'avais pas vu dans le cahier des charges, tu t'es retrouvé à prendre un engagement en disant à ton client ça, ok, je sais faire, je sais faire, je sais faire. Et bah, en creusant un peu, tu découvres que, ok, en fait, il y a un monde complètement caché derrière cette fonctionnalité-là, et j'avais pas du tout pensé à ça, et là, par contre, j'ai l'impression que je vais pas réussir à savoir faire. Est-ce que ça s'est vraiment passé?
Étonnamment, ça m'est jamais arrivé. J'ai plutôt eu de la chance dans mes projets où, voilà, généralement, quand j'avais un cahier des charges, des choses à faire, j'ai toujours plus ou moins réussi à me débrouiller et à fournir ce qui était demandé. Il y a un projet, je crois que c'était l'un de mes derniers projets que j'ai fait, entre guillemets, en freelance, on va dire, parce que soit j'en fais toujours indirectement aujourd'hui, mais où en fait j'ai quitté un projet pendant qu'il était en cours. Mais là, c'était pas de l'ordre du fait que j'ai mal jugé le cahier des charges, mais c'était plus un souci d'équipe et de la gestion du projet où en fait ça allait pas. Et du coup, j'ai quitté le projet en cours de route parce que voilà, j'y trouvais plus mon compte, c'était plus intéressant pour moi. Et donc à ce moment-là, je me suis dit vaut mieux arrêter plutôt que de continuer et que ça finisse mal entre guillemets. Mais c'est la seule expérience où voilà, il y a eu entre guillemets, un petit couac pendant le projet, mais sinon le reste du temps, ça s'est bien placé, quoi.
Du coup, tu mettrais, enfin, tu me dis, non, j'ai eu de la chance. Est-ce que tu mets ça sur le coup de la chance ou est-ce que c'est parce que tu estimes avoir toujours fait attention à bien analyser un cahier des charges ou est-ce que tu penses tout simplement que c'est une peur qui est pas fondée et qu'au final, on se retrouve très rarement dans ce genre de situation où on est bloqué à ne pas savoir faire quelque chose? Parce qu'au final, il y a une différence entre rester bloqué. Parce qu'on est face à quelque chose qu'on ne sait pas faire et faire face à quelque chose qu'on ne sait pas faire, mais voilà, on se documente et en peut-être une après-midi ou quelques demi-journées, bah, on arrive à résoudre le problème et au final, ça passe comme une lettre à la poste Et on se rend compte qu'on n'a pas du tout été bloqué, peut-être un petit peu retardé, mais que cette peur au final qu'on avait au début, bah, elle n'est pas vraiment fondée, quoi.
Ouais, bah je pense que c'est un peu des deux. Il y a un peu du côté où en fait on se fait un peu peur à soi-même en se disant bah voilà, est-ce que qu'est-ce qui se passe si ça arrive, si j'arrive dans le projet et que je sais pas faire ça. Mais d'un autre côté, si on est bien préparé, bah déjà bien regarder le projet avant de commencer une mission, bah c'est la base de pouvoir se dire ok, je sais que il y a ça qui va pouvoir être fait, ça qui va être un peu plus compliqué, mais je vois un petit peu comment ça peut être fait, faire éventuellement quelques petites recherches pas trop longues, mais au début avant de se lancer, donc ça permet d'éviter ce genre de situation. Et je pense qu'il y a ça qui aide grandement. Mais comme tu dis, dans le cas où tu arrives entre guillemets, un vrai problème, bah, généralement, on est capable de le gérer parce qu'une fois que tu es face au problème, tu te dis bah, je dois le résoudre. Je peux pas tout abandonner, appeler le client, lui dire bah, finalement, je sais pas faire ça, j'abandonne. Donc, du coup, tu es devant le problème, tu te dis ok, en fait, j'ai ça, je sais pas comment le faire, mais il faut que je le fasse parce que le client attend que je le fasse et tu arrives à te débrouiller. Donc, je pense que c'est un petit peu des deux. Il y a une petite peur qui est je pense, qui est justifiée au début parce que bah, voilà, tu n'as pas forcément l'expérience et ça t'es pas vraiment arrivé. Mais une fois que tu es dans le projet, dans le flow, en fait, c'est une peur qui s'évapore assez rapidement parce que voilà, même si tu arrives devant un problème, tu te dis bon bah j'ai pas le choix, il faut que je trouve une solution. Et généralement, on arrive à trouver une solution, quoi.
D'accord, ok. Et alors petite question, pour quelqu'un qui voudrait se lancer en freelance, donc enfin pour quelqu'un sur qui ça tombe pas comme ça un peu par hasard, qui fait pas une rencontre d'un professionnel qui lui dit ah bah tiens, t'as des compétences en ça, 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 est-ce que tu pourrais me faire une telle appli ou un tel site? Pour quelqu'un qui veut trouver ses premiers clients mais qui a peur de se lancer en freelance parce que il est peut-être encore étudiant ou alors il a appris lui-même et du coup il se sent pas trop légitime parce qu'il n'a pas un diplôme officiel. Quelles seraient pour toi les connaissances basiques, minimales requises pour commencer à se lancer en freelance, particulièrement sur du, alors comme tu veux, soit sur du web, soit sur du mobile ou les deux. Quelques petites features comme ça, fonctionnalités, où tu te dis, ok, à partir du moment où je sais faire ça, je peux commencer à, de manière assez confiante, chercher des clients.
Bah en soi, bah, je vais parler plus pour le côté mobile parce que c'est ça que je maîtrise le plus. Contrairement à ce qu'on pourrait penser pour des petites missions, donc là je parle bien de rentrer mes petites missions rapides, il n'y a pas énormément de choses compliquées. Donc quand je dis pas énormément de choses compliquées, je parle vraiment de missions assez simples, pas de faire une application complète. Et je pense se focaliser sur ce qui va être visuel, tout ce qui va être UI, tout ce qui va être visuel de l'application. Parce que en soi, c'est indirectement, c'est un petit peu ce que recherchent les clients, les personnes qui vont rechercher bah, quelqu'un pour faire un projet d'application. Donc, comme d'habitude, je parle toujours d'application mobile, vont avoir une idée derrière la tête, mais vont se baser sur le visuel en fait. Elles vont se dire bon, bah, je veux que mon application elle fasse ça, ça, ça. Et au final, derrière, comment c'est fait, bah, elles s'en fichent un petit peu. Elles vont pas chercher l'optimisation, elles vont pas chercher l'utilisation de telle ou telle plateforme, telle ou telle librairie, de telle ou telle technologie. Elles veulent dire, bon, ben, moi, je veux que mon application, elle se fasse ça et qu'elle soit jolie. Et en fait, je pense que se concentrer sur tout ce qui est UI, faire des UI assez sympas, savoir gérer des animations pas trop trop compliquées, je pense que c'est un avantage. Et du coup, c'est plus facile d'avoir un portfolio avec bah, beaucoup d'applications avec des belles UI, plutôt qu'avoir, bah, à contrario, un GitHub avec plein de projets, avec des éléments techniques, des librairies, des trucs un peu plus poussés. Mais pour un client qui va rechercher quelqu'un à développer et qui n'est pas dans le monde de la technique, en fait, on va lui donner le GitHub, il va dire, ouais, mais moi, visuellement, je comprends pas le code et visuellement, moi, ça me dit rien. Alors qu'un portfolio avec des jolies pages, même deux, trois pages d'une application, là, ça va plus lui parler et là, ça va plus l'intéresser. Donc, je pense que pour du mobile, se focus sur comment gérer une belle interface, comment gérer et faire une belle interface, ça peut être un avantage.
D'accord, ok. Et donc là, tu nous parles de portfolio. Est-ce que tu aurais des conseils justement, alors toujours en restant focus sur le développement mobile, comment tu conseillerais de procéder pour se créer un portfolio? Parce que c'est vrai qu'il y a plusieurs façons de se créer un portfolio. Par exemple, on sait que les designers, bah voilà, ce qu'ils mettent sur leur portfolio, c'est des captures d'écran ou à la limite les fichiers des maquettes, mais c'est quelque chose de très visuel. Et au contraire, pour quelqu'un qui développent des sites ou des applications, par exemple, on pourrait dire que le portfolio, il est constitué de capture d'écran, voilà, pour attirer l'œil, mais que derrière, par exemple, il y a un lien soit vers le code source, soit tout simplement un lien vers le store sur lequel est publiée l'application. Et là, justement, le client ou la personne qui vient regarder ce portfolio, bah, elle peut télécharger l'application et c'est pas quelque chose de juste visuel, tu vois. Peut-être que c'est connecté à une base de données ou qu'il y a des animations, tout simplement, quelque chose qu'on voit pas ou peu sur des captures d'écran. Ce serait quoi ton conseil de quelqu'un, un développeur mobile qui veut se lancer, qui veut créer un portfolio ?
Je resterai sur le côté UI et de prioriser les captures d'écran et tout ce qui est visuel. C'est vrai que c'est toujours important aussi d'avoir, comme tu l'as dit, des applications, si possible, des applications sur le store, c'est encore mieux, parce que voilà, les personnes peuvent vraiment voir, peuvent vraiment tester. Et donc, du coup, voilà, il faut que la fluidité de l'application soit au rendez-vous. Mais c'est vrai que pour commencer, s'il n'y a pas forcément le temps ou les compétences ou quoi que ce soit pour vraiment faire de grosses applications ou les publier sur le store, juste faire des UI, tester des UI d'application et mettre des screens, les présenter. Je sais que ça peut fonctionner parce que ça avait fonctionné pour moi à l'époque. Donc après, au jour d'aujourd'hui, je sais pas si ça marcherait de la même façon. Mais je sais qu'à l'époque, je m'amusais à créer des designs et à les reproduire. Et je postais ça sur mon Instagram, sur des plateformes. Et je sais qu'il y a certaines personnes qui les ont remarquées, qui m'ont contacté, qui m'ont dit « Bah oui, j'ai vu que tu avais fait tel ou tel design, que tu avais fait telle ou telle intégration sur une app, et j'aimerais bien avoir quelque chose de similaire pour une application. » Et ça m'avait amené à un projet, au final, en freelance, alors que derrière, j'avais vraiment juste fait lui. Il n'y avait pas de vraie application derrière, il n'y avait pas de fonctionnalité, il n'y avait pas de base de données, il n'y avait rien, quoi. Il y avait juste vraiment lui. Et je pense qu'à partir du moment où c'est visuel, c'est plus compréhensible, mais pour des personnes qui ne sont pas dans la technique. Après, ça dépend de ce qu'on recherche. Donc, si la personne qui propose un projet en freelance et pas du domaine technique va plus se focaliser, de mon point de vue, sur lui. Après, si la personne a un petit peu de compétences techniques, c'est vrai qu'elle va essayer de chercher à savoir, voilà, sur quelle technologie a été utilisée, comment ça a été fait, etc. Donc, c'est toujours mieux d'avoir des trucs complets, donc d'avoir le côté UI et fonctionnel derrière qui tient la route. Mais s'il n'y a pas trop le temps, si on veut commencer rapidement, etc., je pense que ce focus sur lui, c'est pas forcément une mauvaise chose.
D'accord.
Même en tant que développeur.
Ouais, carrément. Et alors, t'as un peu répondu à la question, mais est-ce que quand t'as commencé, est-ce que t'avais déjà ton portfolio, ou alors c'était vraiment, soit t'en avais pas du tout, soit c'était vraiment quelque chose de basique, à la limite tu t'es dit, je reprends, je sais pas, des projets que j'ai fait en école, et ensuite tu t'es dit, ok, là j'ai quelques missions, maintenant je veux, entre guillemets, une carte de visite plus professionnelle, ou alors, inversement, t'avais déjà bien bossé ton portfolio, et c'est grâce à ça que t'as commencé à trouver tes premiers clients.
Non, moi à l'époque, justement, j'avais pas de portfolio, j'avais vraiment rien de ce qu'il fallait, on va dire. J'avais pas vraiment de réseau, j'avais pas de portfolio, à part mon maître de stage de l'époque qui m'avait filé des missions, mais c'était du web. Quand j'ai voulu me lancer au mobile, ce que j'avais utilisé comme étant mon portfolio de l'époque, c'était des projets que j'avais réalisés pendant des tests de stage. Je sais que il y avait un stage que j'avais demandé, il m'avait demandé de réaliser un projet, donc de faire une app avec une API, etc. Et j'avais gardé ce projet-là et je l'avais retravaillé un petit peu pour qu'il soit un petit peu plus sexy à mettre en avant. Et j'avais eu à faire ça 2-3 fois. Et en fait, c'est ça que j'utilisais, que je mettais en avant. Plus, comme je disais tout à l'heure, des petits designs en fait, que je faisais d'applications et que je mettais ça en avant. Donc j'avais même pas vraiment un vrai portfolio, j'avais juste ces 2-3 bricoles-là, on va dire. Et c'est ça qui m'a permis d'avoir quand même quelques missions en freelance, quoi.
Ouais, tu trouves que ça a quand même aidé ?
Ouais, je pense que sans ça, ça aurait été plus compliqué. Pas totalement impossible, mais plus compliqué. C'est vrai que sans rien à montrer, en fait, sans UI, sans petit projet de réaliser ou quoi que ce soit, c'est forcément beaucoup plus compliqué, quoi. Je pense que sans ça, ouais, ça aurait été plus galère de mon côté.
Ouais. Mais malgré tout, il n'y avait pas non plus besoin de passer 1 mois, 2 mois complets sur le développement d'une belle application avec des belles animations, fluides, etc. Quoi.
Non, franchement, il n'y a pas non plus besoin d'avoir un truc ultra travaillé à mettre dans son portfolio. C'est avec plein de petits projets ou même forcément des trucs pas forcément finis. ça peut se mettre en avant. On peut le mettre en avant, dire que voilà, c'est un projet en cours, c'est pas terminé, même s'il est plus vraiment en cours et qu'il n'a jamais été fini.
Ouais.
Voilà, juste de dire voilà, c'est un projet qui est en cours, donc si c'est pas fini, c'est normal. Mais de montrer qu'il y a eu des débuts, qu'il y a quelque chose qui a été fait, montrer que quelque chose a été fait en fait, pas ne rien avoir quoi. Donc tout est bon à prendre, même si c'est pas parfait, même si c'est pas terminé, même si c'est pas optimisé, ça passe quoi.
Ok. Et donc là, tu avais, on va dire, un pseudo-portfolio. Tu avais ça en main. Qu'est-ce que tu as fait? Comment tu as fait pour trouver tes premières missions, donc à part celles qui sont plus venues vers toi, mais au moment où tu as voulu chercher de toi-même tes premiers clients, comment tu t'y es pris?
C'était simple et compliqué en même temps, on va dire. Parce que c'est vrai qu'à l'époque, je me suis posé la question que je pense que tout le monde se pose, c'est comment trouver des clients. Et la réponse qui me revenait le plus souvent dans mes recherches, c'était le réseau, le réseau, le réseau. Sauf qu'à l'époque, j'avais pas du tout de réseau. Et ce que j'ai fait, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est que j'ai utilisé pas mal de plateformes de freelance, donc pour trouver des freelances. Et à l'époque, je ne sais pas si ça existe toujours, il y en avait pas mal qui étaient spécialisés pour les étudiants, des
Ok.
plateformes pour trouver des étudiants freelance. Et je sais que je m'étais inscrit sur deux, trois d'entre elles, et il y avait pas mal d'offres et de missions, donc j'étais en contact avec pas mal de personnes, donc ça n'a pas forcément toujours abouti. Et en fait, là où j'ai encore eu de la chance, c'est que sur l'une de ces plateformes, il y a un moment, il y a la plateforme qui m'a rappelé, qui m'a dit, voilà, on a une mission en mobile, est-ce que ça vous intéresserait? C'est un petit truc. J'ai dit, OK. Au final, la mission ne s'est pas faite, mais la personne a gardé mon contact. Elle m'a dit, voilà, on a souvent des trucs en mobile, est-ce que si on en a une prochaine dans une semaine, dans un mois, est-ce que tu es dispo? J'ai dit, oui, il n'y a pas de souci. Et en fait, ça a été, entre guillemets, mon contact privilégié pour la plupart des missions freelance que j'ai eues, parce qu'il m'a rappelé pour un projet en mobile plus tard qui s'est déroulé, qui s'est bien passé. Et au final, derrière, dès qu'il avait une mission ou un projet en mobile, c'est moi qui l'appelais en priorité. Donc les trois quarts de mes missions freelance que j'ai faites, c'était via cette plateforme et cette personne, parce qu'au final, l'interlocuteur que j'avais, c'était le directeur de la plateforme. Et sinon, à part ça, là, ce qui marche beaucoup mieux aujourd'hui, ça va être les réseaux sociaux. À l'époque, j'ai essayé de m'y mettre un petit peu. C'est à l'époque où j'avais commencé un petit peu mon Instagram, donc à poster un petit peu, mais j'étais pas vraiment. Enfin, j'étais plus actif qu'aujourd'hui, mais pas encore vraiment à fond dessus. Et je sais qu'il y a des personnes qui m'ont contacté, soit via Instagram ou soit même via LinkedIn. Je sais que j'ai réussi à avoir une mission freelance via LinkedIn. D'ailleurs, j'étais un peu étonné d'avoir eu ça via LinkedIn parce que je postais littéralement rien du tout. Mais les personnes m'ont contacté via LinkedIn par rapport à justement un design d'application que j'avais fait, que j'avais posté, je sais plus où. Je crois que c'était sur Dribbble ou quelque chose comme ça. Et enfin, j'ai dû poster trois trucs dans ma vie sur Dribbble. J'ai dû y aller peut-être cinq fois vraiment pour poster quelque chose. Hein. J'y vais pour l'inspiration, mais je fais pas grand-chose dessus. Et il y a quelqu'un qui m'a contacté sur LinkedIn par rapport à ce que j'avais fait sur Dribbble. J'étais là en mode, mais c'est fou, j'y suis allé trois fois. Comment c'est possible? Donc je pense que c'est quelque chose à pas négliger non plus. Ça demande pas énormément de temps de se créer un compte un petit peu partout, de l'alimenter un petit peu de temps en temps. Et quand on n'a pas forcément de réseau, je pense que ça peut aider. Surtout les plateformes de freelance, donc adaptées. Hein. Si on est étudiant, il y en a spécialisées pour les étudiants et je trouve qu'elles marchent plutôt pas mal. Mais sinon, les plateformes de freelance en général, après, il y en a des bonnes, des moins bonnes, avec des fonctionnements différents. Mais quand on n'a pas forcément de réseau ou pas forcément d'endroit où trouver de missions, je pense que ça peut beaucoup aider pour démarrer, quoi.
Ok, ouais, c'est top, ça se. Alors, je me doutais que ça existait, mais c'est vrai que j'en ai jamais connu en particulier des plateformes pour étudiants freelance. C'est top parce que, alors, d'une part, t'es un peu. T'es moins noyé dans la masse, contrairement à si t'allais par exemple sur Malte. Et en plus de ça, je suppose que le client, quand il vient sur cette plateforme-là, il sait d'une part que ton emploi du temps, enfin, tu pourras pas bosser pour eux à temps plein. Et en plus, qu'il ne faut pas non plus qu'ils s'attendent à ce que tu sois aussi bon qu'un développeur senior qui fait ça depuis 5 ans, quoi. Donc du coup, ça t'enlève pas mal de pression, je trouve.
Ouais, totalement. C'est ça l'avantage aussi, c'est que c'est un truc gagnant-gagnant. D'un côté, t'as l'étudiant qui veut se faire un peu de sous, qui veut se faire la main et qui voudrait trouver des projets, et donc qui va sur la plateforme. Et de l'autre côté, t'as le professionnel qui a un projet, qui a pas forcément le budget pour un senior, mais que le projet n'est pas forcément hyper pressé et ayant besoin de quelqu'un à temps plein dessus. Donc c'est un bon compromis et les taux ne sont pas non plus dérisoires quand les prix ne sont pas au rabais non plus.
Ouais.
Donc c'est plutôt pas mal quoi.
Et alors après j'aimerais qu'on revienne sur le enfin ton activité principale aujourd'hui avec cette boîte américaine. Mais du coup, est-ce que tu peux juste nous refaire un récap temporel entre le moment où tu es sorti d'école, est-ce que t'es passé par un job classique, est-ce que tu t'es directement enfin t'as continué à faire des missions freelance, comment ça s'est passé une fois que tu étais sorti de l'école?
Du coup, mon parcours il est un petit peu atypique parce que j'ai arrêté l'école justement avant mon diplôme. Du coup, j'ai fait, comme je disais, j'étais en école d'ingé, enfin, j'ai fait trois écoles d'ingé différentes en fait. En fait, tous les ans, j'ai changé
Ok.
d'école d'ingé parce qu'en fait, ça me plaisait pas. La promesse qui était donnée avant que j'y rentre et une fois que j'y étais, était pas cohérente selon moi en fait. Donc, je suis rentré dans une école, ça me plaisait pas. Donc l'année suivante, j'ai changé. L'année encore suivante, j'ai changé. Et en fait, c'était ma dernière année, donc pour obtenir mon diplôme. Et en fait, je me suis dit, en fait, je vais laisser tomber. J'ai pas envie d'aller au bout. Et pas mal de monde m'ont dit que c'était totalement con, parce qu'au final, j'avais déjà passé même pas 5 ans, au total 6 ans, parce qu'il y avait une année que j'ai voulu refaire parce que j'avais pas fait complètement. Enfin bref, j'avais passé tout ce temps-là et ils m'ont dit, en fait, tu vas finir juste avec un, entre guillemets, juste avec un bac plus 3 et tu seras pas arrivé au bac plus 5, t'auras pas ton diplôme d'AG. Mais en fait, moi, je me suis dit, je vais quitter en plein milieu parce que déjà, ça me saoulait. Et je me suis dit, en fait, j'ai envie de prouver aussi que j'ai pas forcément besoin d'un diplôme pour pouvoir trouver un travail, pour pouvoir gagner de l'argent par rapport à mes compétences. Je sais ce que je vaux et j'ai pas forcément envie d'avoir un diplôme. Et en fait, à ce moment-là, quand j'ai quitté l'école dans ma dernière année, j'avais déjà fait quelques missions en freelance, mais surtout, j'avais déjà commencé à faire en freelance aussi, à travailler pour Open Classroom en tant que mentor. Et ça
Ouais.
faisait, je crois, 1 an que je faisais ça. Et au moment où j'ai quitté les cours, en fait, avec Open Classroom, j'avais un revenu assez confortable. Et je m'étais dit, en fait, je vais arrêter les cours parce que voilà, ça m'intéresse plus, j'ai plus envie d'avoir le diplôme, mais je sais que je suis capable de pouvoir travailler de mon propre chef. Et à ce moment-là, j'ai quitté l'école. Donc j'avais Open Classroom que je continuais, qui me prenait quand même pas mal de temps, parce que j'avais pas mal d'étudiants, et qui était mon revenu principal. Et je m'étais dit, à côté de ça, je vais faire quelques missions freelance. Et en fait, quand j'ai arrêté les cours, j'ai dû faire à cette période-là deux missions freelance pendant les 3 ou 4 mois qui ont suivi mon arrêt des cours. Et ensuite, j'ai arrêté les missions en freelance. Enfin, en soi, avec Open Classroom, c'est un contrat de freelance que j'ai, mais je ne considère pas ça comme du freelance, entre guillemets, vu que c'est pas du développement, c'est vraiment plus
Ouais.
du mentorat. Donc, je dissocie les deux, mais au final, Open Classroom, ça reste du freelance. Donc, du coup, j'ai arrêté tout ce qui va être mission de développement, on va dire, plutôt. Et je voulais, en fait, me consacrer plus sur moi-même. Et c'est là où il y a eu un changement dans ma façon de voir les choses. Je me suis dit, en fait, j'ai plus envie de travailler en freelance, j'ai vraiment envie de travailler pour moi-même, de créer mes propres trucs et d'être mon propre chef en fait, de créer ma propre source de revenus, donc soit via des cours en ligne, via des applications, etc. Et donc je me suis dit, j'ai toujours mon contrat avec Open Classroom qui se passe bien et qui me permet d'avoir un revenu confortable tous les mois. Et du coup, j'ai profité du temps libre que j'ai à côté pour travailler sur mes propres applications. Et donc pendant un an et demi, je crois. 1 an et demi ou peut-être 2 ans, je sais plus. Je crois à peu près 1 an et demi, j'ai travaillé sur mes propres applications, sur d'autres projets. J'ai essayé plein de trucs. J'avais la possibilité d'essayer des trucs à droite, à gauche, de faire des applications. Je suis même un petit peu sorti du développement. J'ai fait un peu plus de marketing. J'ai fait un petit peu d'autres choses. Je me suis un peu cherché. Et en fait, au final, il y a à peu près 1 an et quelques, bientôt 1 an et demi maintenant, par hasard, je suis arrivé. J'étais sur LinkedIn. J'y vais une fois tous les 6 mois. Et je suis tombé sur une offre qui recherchait un développeur mobile Android. Et c'était pour une start-up totalement remote, start-up américaine, avec tous les avantages qu'on connaît, ticket resto, mutuelle, etc., etc. Et je me suis dit, Pourquoi pas, ça pourrait être pas mal. Sachant qu'à l'époque, je m'étais dit, ben, j'ai pas envie de retourner dans un CDI. Enfin, j'y ai jamais vraiment été, en fait. Parce que du coup, la question de base que tu
Ouais,
m'as
bah
posée,
oui.
c'était si j'avais eu une expérience classique. Ben, en fait, non, du coup. J'ai eu que du freelance pendant mes études. Et quand j'ai arrêté les études, ben, j'ai continué le freelance avec Open Classroom et deux, trois petits projets à côté, mes propres apps. Mais j'avais jamais eu d'expérience en CDI, quoi. Donc, j'avais jamais travaillé dans une boîte, entre guillemets, classique. Et je m'étais dit que bah jusqu'à présent je l'ai jamais fait et je vois pas pourquoi je le ferais parce que bah voilà je m'en sors très bien sans. Mais là j'ai vu l'offre et je sais pas pourquoi je me suis dit tiens ça pourrait être une bonne opportunité et je me dis j'ai rien à perdre. Le salaire qu'ils proposaient était attractif. Je me suis dit bon bah voilà c'est en remote donc ça va avec ce qui me convient parce que j'avais pas spécialement envie non plus d'aller dans des locaux, d'être libre, de pouvoir voyager, etc. Et je me suis dit, bon, ça coûte rien, j'ai envoyé un message, j'ai passé l'entretien, et en fait, je me suis rendu compte que bah, voilà, l'équipe était sympa, ça matchait bien, donc j'ai accepté, ils m'ont proposé le poste, du coup, j'ai accepté l'offre, et au final, j'y suis depuis un an, et ça se passe hyper bien, parce que voilà, l'équipe est cool, le projet est cool, et aussi, techniquement, bah, ça m'apporte pas mal, parce que du coup, bah, c'est un petit peu différent, je trouve, de travailler pour soi-même à son compte, et de travailler dans une boîte, enfin plutôt dans une start-up, je dirais, parce que dans une boîte classique, ça peut être assez ennuyeux en fonction de la boîte, mais du coup, j'ai un petit peu revu ma façon de penser, vu qu'au final, bah là, je suis en CDI, mais je garde quand même mon temps libre pour mes activités perso, en me disant, voilà, le CDI, je sais que là, j'y suis, ça me rapporte tout le côté sécurité, etc. Mais j'ai quand même tous mes petits projets à côté où je me dis, voilà, je sais que si demain, pour une raison X ou Y, le CDI, ben, j'en ai plus envie, ça me saoule, ou j'ai envie de passer à autre chose, je vais avoir la possibilité de me dire, ben, voilà, je quitte le CDI, j'ai toujours mes projets personnels qui peuvent subvenir à mes besoins sans avoir à réfléchir, à me dire oui, mais si j'arrête le CDI, si je vais faire ci, ça, etc. Et c'est ça qui est aussi pas mal avec le poste que j'ai actuellement, c'est que bah, vu qu'il est en remote et que bah, l'agenda est modulable, je peux gérer mon temps comme je veux. Si j'ai un projet perso qui me prend un peu plus de temps, bah, voilà, un petit peu décaler ce que j'ai à faire et reporter à plus tard. Tant que le taf est fait, il n'y a pas de souci, quoi.
Ouais, c'est ça, j'allais te demander, est-ce que ce job en CDI t'a fait revoir tous tes projets perso, ou est-ce qu'au contraire, bah, comme tu l'as dit, hein, ça permet d'avoir une certaine sécurité de l'emploi. Certes, un CDI, bah, a priori, si on fait une moyenne, je pense que quand tu es en CDI, à l'heure, tu gagnes un peu moins que quand tu es en freelance, parce que forcément, bah, c'est la boîte qui t'emploie, donc il y a des charges à droite à gauche, et puis c'est eux qui gèrent pas mal de trucs que en freelance tu devrais gérer toi-même. Mais du coup, tu as quand même du temps libre, et en fait, ça te permet effectivement d'avoir une sécurité et de te dire, ok, bah, je peux me permettre, je sais pas, peut-être une semaine par mois ou juste les week-ends, bah, de bosser à côté sur mes projets, et puis ça va peut-être me permettre de faire grossir un truc comme un réseau social, une plateforme de formation ou une application qui génère des revenus en parallèle, et de me dire, ok, bah, j'ai par exemple un an pour faire grossir un nouveau projet, mais c'est pas un an où je dois piocher dans mes économies, quoi. C'est un an où j'ai toujours un revenu, et ça, c'est vrai que c'est une façon d'entreprendre qui est quand même très très safe, quoi.
Ouais, totalement. Bah, c'est pour ça, à chaque fois, je repars de chance, mais je me dis que, bah, voilà, d'être tombé sur cette offre, bah, j'ai eu de la chance d'avoir été pris, j'ai eu de la chance. Et pareil, là, c'est que l'équipe est assez petite, vu que c'est une start-up. On s'entend tous très bien, enfin, du moins pour l'équipe technique. Et c'est vrai que, bah, voilà, avec les autres membres de mon équipe, ou même mon manager, etc., il n'y a pas de cachotterie entre guillemets, c'est-à-dire il sait ce que je fais à
Ouais.
côté, il sait c'est quoi mon objectif, et du coup même des fois il me conseille sur certaines choses, sur certains projets que j'ai, etc. Des fois le soir on se retrouve ensemble pour bosser chacun sur nos projets perso. Donc du coup il y a vraiment ce côté bienveillant à ce niveau-là. Tu vois, c'est pas comme si j'étais dans un CDI et en fait je devais cacher que j'ai un projet perso à côté qui va me faire
Bah
quelques
oui,
mois,
ouais.
pas du tout. Et c'est ça aussi que j'apprécie beaucoup dans le poste que j'ai aujourd'hui. Et je me dis, bah en fait, oui, j'allie un petit peu le meilleur des deux mondes, la sécurité du CDI, on va dire, et la liberté de faire mes projets perso, quoi.
Ah bah carrément, carrément. Et c'est vrai que du coup j'allais te demander, est-ce que tu te considères libre aujourd'hui, dans le sens où, enfin, est-ce que par exemple t'as en tête un idéal de quotidien? Je sais pas si on peut vraiment parler d'idéal de quotidien, mais est-ce que tu te sens libre aujourd'hui? Est-ce que le mode de vie que tu as aujourd'hui, il te convient? Ou est-ce que justement tu bosses sur des projets parallèles pour modifier ce quotidien et puis modifier par exemple tes sources de revenus et ton temps disponible?
Je dirais un peu des deux, dans le sens où le mode de vie que j'ai actuellement, il me convient totalement. En soi, je bosse depuis chez moi, j'ai un revenu stable, confortable, je peux aménager mes horaires de travail sans souci. Je peux voyager si je veux. D'ailleurs, avant qu'on soit confiné pendant un an, c'est ce que j'avais fait. Il n'y avait pas de souci là-dessus, quoi. J'ai dit au manager, là, je pars une petite semaine à cet endroit, mais je continue à bosser. Et en fait, j'ai pas eu besoin de poser de congé en soi, parce que j'ai dit, voilà, je pars la fin de semaine, je bosse jeudi, vendredi. Le soir, je profite de la ville. Le week-end, j'étais à l'étranger, je profitais, je rentrais. Et il n'y avait pas de tension à ce niveau-là, comme il pourrait y avoir dans une autre boîte, par exemple, où tu essayes un petit peu de cacher, où tu es obligé de poser tes congés parce que tu n'es pas chez toi. Enfin, vraiment, il y a tout ce côté bienveillant à ce niveau-là qui me convient beaucoup. Et en fait, je me dis que là, le poste que j'ai, c'est un peu l'exception qui confirme la règle, où je me suis dit, en fait, je ne voulais pas de CDI. Au final, je me suis retrouvé dans un CDI, mais entre gros guillemets, le CDI idéal qui match avec ce que j'ai envie de faire. Donc, je pense que là, à l'heure actuelle, j'ai la situation qui me convient le mieux. Après, je continue quand même des projets perso parce que c'est plus pour un but personnel de me dire que voilà, j'ai quand même mon indépendance à côté. J'ai pris le CDI parce que voilà, le projet est cool, etc. Ça rapporte la sécurité, mais j'ai pas envie de tout reposer là-dessus. J'aurais très bien pu me dire voilà, je vais pas me fatiguer à faire des projets à côté parce que j'ai le CDI, je suis bien payé, je fais ce que je veux, donc je pourrais entre guillemets, me reposer sur mes acquis et me dire, c'est tranquille. Mais j'ai quand même envie d'avoir ce côté personnel de me dire, voilà, j'ai mon CDI, c'est cool, mais j'ai aussi mes projets à côté que j'avais déjà avant, que j'ai encore maintenant, que j'ai envie de continuer à faire évoluer et d'être indépendant à ce niveau-là. Et en fait, j'ai envie d'atteindre le moment où mes revenus en tant qu'indépendant, en tant que projet perso, atteignent le revenu de mon salaire. Et là, en fait, je pense que c'est le niveau où je pourrais me dire, là, je suis parfaitement bien. Enfin, au minimum. Pour moi, c'est le minimum pour me dire que je suis parfaitement bien parce que je peux jongler entre les deux, parce que j'aurais gardé mon CDI et j'aurais toujours mes projets perso. J'arrive à avoir assez de temps à concilier aux deux, mais les deux m'apportent, monétairement parlant, le même revenu. Et là, je pourrais me dire, en fait, oui, je suis libre de faire ce que je veux dans les deux cas. Mais à l'heure actuelle, je me sens quand même bien dans la situation où, voilà, j'ai quand même du temps libre pour mes projets perso. Le CDI il me plaît bien, c'est pas contraignant. Enfin, pour l'instant, moi, je vois pas de contraintes. Donc, après, c'est plus un objectif personnel de me dire, voilà, je veux que ce qui est fait de manière indépendante soit au même niveau que mon CDI.
Ouais, un challenge personnel, quoi. Ok. Là, tu nous parlais par exemple de cette liberté de pouvoir partir en vacances une semaine, 2 semaines, comme ça, sans avoir à poser de congé et sans être contraint par les congés de tes collègues ou un projet actuel dans la boîte. Est-ce que le fait que cette barrière entre le pro et le perso soit floue, ou alors au contraire, est-ce que tu arrives à faire en sorte qu'elle soit pas floue, mais en tout cas, est-ce que ça te met pas une certaine pression, comme par exemple si tu es, je sais pas, parti en vacances ou juste en week-end et que tu es censé, je sais pas moi, être avec la famille, être en vacances quelque part où t'es pas censé travailler, est-ce que justement t'as pas des fois cette envie de checker tes mails, de voir si t'as pas une nouvelle proposition, de voir s'il n'y a pas un truc qui s'est mal passé sur l'application? Est-ce que justement t'as cette pression ou cette facilité à déconnecter quand t'es pas en mode travail?
Du coup, c'est vrai que c'est un petit peu complexe dans le sens où moi, d'ordre général, même quand je me dis je vais me prendre des vacances ou etc., je vais me déconnecter, c'est vrai que je suis toujours axé plus sur le travail, donc je vais pas m'empêcher de regarder un petit truc, de dev un petit truc sur le côté. Enfin, ça va pas me déranger. En fait, je sais que je suis en week-end, mais bon, sur le temps de trajet, j'ai du temps perdu. On va dev un petit truc, on va prendre de l'avance, etc. Mais je sais qu'il y a des moments où j'ai vraiment besoin de couper et de me dire, là, on va stopper les mails, le dev pendant quelques jours. Bon, généralement, ça ne dure pas plus de quelques jours parce que je suis obligé de me remettre dessus. Mais en fait, je vais personnellement faire la différence entre les deux, ou dans le sens où, par exemple, voilà, avant le Covid, j'étais parti quelques jours en Espagne et j'avais dit, bon, bah, je pose pas de jour de congé parce que bah, je vais travailler, je vais faire le taf qui m'est demandé, mais le soir, je profite, le week-end, je profite et j'arrive à jongler entre les deux. Je me dis, bon, bah, voilà, je sais que j'ai ça à faire, je vais faire ça dans ce temps-là. Donc, si, par exemple, bah, voilà, j'avais une activité, je sais que j'avais pris des activités quand j'étais parti qui étaient le matin, normalement, le matin, je suis censé, entre guillemets, je suis censé bosser parce qu'il y a les horaires à peu près de travail avec tout le monde. Bah, j'étais quand même parti faire mon activité, je suis rentré en fin de matinée, j'ai bossé entre midi et deux, j'ai bossé un peu plus le soir parce que j'ai fait ce que j'avais à faire. J'ai pas culpabilisé à ce niveau-là et pareil, mon équipe, mon manager savait que voilà, j'aurais dit, bah, ce matin, je suis pas là parce que bah, je fais une activité, je reviens après, il n'y a pas de souci. Et tant que c'est clair et transparent à ce niveau-là, il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai que dans les moments où j'ai vraiment besoin de couper, là, je vais poser de vrais congés, on va dire, ou là où je vais dire, bon, en fait, là, à ce moment-là, je ne travaille pas, parce que je sais que j'ai pas envie de travailler et que j'ai besoin de me couper. Et dans ces moments-là, je vais vraiment tout couper. Je vais pas regarder mes mails. Bon, j'ai quand même toujours les mails, les petits messages Slack qui vont arriver, où je vais regarder du coin de l'œil, mais je vais pas me dire, oh putain, il y a ce truc-là, il faut que je regarde, machin. Donc, j'arrive plutôt pas mal à faire la part des choses à ce niveau-là. Mais c'est vrai que les moments où j'ai vraiment besoin de couper, c'est soit quand je vais me retrouver en famille, et donc généralement bah, ça dure pas très très longtemps, on va dire une semaine maximum, ou soit les moments où je vais me dire je vais faire des longs voyages, enfin des longs voyages, des gros voyages plutôt vraiment à l'étranger sur un autre continent. Mais ça, du coup, depuis que je suis arrivé dans la boîte, donc ça fait un peu plus d'un an, bah, c'est pas arrivé à cause du Covid, donc je pourrais pas vraiment le dire, mais je sais que c'est prévu quand ça sera possible, et je sais que bah, des moments où je voudrais voilà, faire des gros voyages ou vraiment me couper, me dire. Voilà, j'en sais rien, moi, aller en Amérique ou en Asie ou peu importe, me dire, ouais, je vais vraiment poser mes congés, dire, voilà, de telle date à telle date, je ne serai pas dispo, et vraiment, vraiment tout couper, quoi.
Ok, ouais, c'est vrai que cette barrière, comme on disait, elle est floue, mais en fait, ça te va totalement. Enfin, c'est au final plus une passion qu'un travail. Ton quotidien, tu le vois plus comme ça. Et ce qui fait que, oui, enfin, moi personnellement, des fois, j'ai tendance à dire que je travaille tout le temps, mais au final, c'est un peu comme si j'étais tout le temps en vacances, parce que pour moi, je considère pas ça comme du travail, dans le sens où bah, ça me plaît, et genre, continuer à bosser, entre guillemets, ou en tout cas à faire ce que je fais jusqu'à minuit, bah. Ouais, c'est pas un problème parce que c'est un kiff et que c'est pas un truc que c'est pas un truc durant lequel tu attends 18 heures pour terminer de faire ce que tu es en train de faire, quoi. Et du coup, est-ce que tu peux nous parler un peu de tes projets actuels en parallèle du CDI?
Ouais, bah, du coup, bah, comme je disais, là, dernièrement, je m'étais mis un petit peu à Flutter, donc pour faire un peu du cross-platform. Et en fait, je me suis rendu compte d'un truc qui m'a un petit peu dérangé avec la techno, c'est que les ressources sont assez limitées quand on veut pousser un petit peu la chose. C'est-à-dire qu'il y a pas mal de ressources sur tout ce qui va être. Bah, pour des débutants, en fait, hein, voilà, faire une petite app simple, des petits écrans, des petits trucs. Mais dès qu'on veut pousser un petit peu la chose, faire des fonctionnalités un petit peu complexes, voir un petit peu tout ce qui va être architecture d'application pour une application qui a plus de 3, 4 écrans, c'est vrai qu'il n'y a pas grand-chose, ou même sur des fonctionnalités un peu plus poussées, il n'y a pas grand-chose. Et en fait, je m'en suis souvent plein. Enfin, je m'en suis souvent plein à mes collègues. Et un jour, comme ça, il y en a un qui m'a dit, bah, en fait, tu te plains, mais pourquoi tu créerais pas les ressources toi-même, vu que justement t'es en train d'apprendre et de faire ce que tu ne trouves pas en fait. Et je me suis dit qu'au final c'était pas si bête que ça. Et du coup je me suis dit mais j'ai pas envie de voilà je me voyais pas. Je me suis dit bah en fait je pourrais écrire des articles, faire des vidéos par rapport à tout ça. Mais en fait, clairement, j'avais la flemme. Je me suis dit, ouais, j'ai un peu la flemme de réécrire des articles, de réécrire des trucs, de faire des vidéos, etc. Ça me plaisait pas. Je pourrais le faire, mais je sais que sur le moyen long terme, ça me saoulerait au bout d'un moment. Je serais pas assez assidu et ça serait pas qualitatif. Et je me suis dit, bah, autant faire quelque chose qui me plaît. Et en fait, bah, j'ai un de mes collègues, pareil, qui s'est mis à Flutter après moi, du coup. Et qu'avait un souci, et donc bah, je l'ai aidé. Et en fait, bah, vu qu'on était à distance, c'était un peu compliqué. Je lui dis, bah attends, tu sais quoi, ton problème, c'est un problème d'UI, du coup. Je lui dis, ton problème, c'est que tu veux faire ça, ça, ça. Moi, j'ai du mal à te guider par visio. Ce que je vais faire, c'est que j'ai créé un petit projet. Je vais faire ce que tu as besoin, et puis je vais l'optimiser. Je vais te l'envoyer avec des commentaires pour t'expliquer comment j'ai fait. Et du coup, je lui ai envoyé ça. On a fait ça. Il m'a dit, bah, c'était super cool. Ça m'a aidé. J'ai vu comment je pouvais faire ça, etc. Maintenant, j'utilise toujours ta méthode. Et je me suis dit, en fait, au lieu de faire des trucs qui me saoulent, en fait, d'écrire ou de faire des vidéos, pourquoi ne pas plutôt faire plein de petits projets sur des sujets bien précis, de bien les documenter et en fait de les mettre à disposition. Et du coup, c'est comme ça qu'un petit peu est venue mon idée de me dire de faire des petits projets précis. Donc, par exemple, comme je disais tout à l'heure, faire un login avec les réseaux sociaux, faire un écran de connexion, faire, j'en sais rien moi, une liste de produits ou un panier de produits ou faire des animations, tout ce qui va être un peu plus suivi, des animations ou des écrans un petit peu tricky. Donc d'avoir des sujets vraiment précis, que ce soit UI ou plus technique et architecture, mais de vraiment prendre un sujet, faire un projet, un sujet, un projet, un sujet, de faire un petit peu une petite fiche descriptive du projet en fait, et en fait de créer une sorte de, je sais pas trop encore, de communauté, de Discord ou de Slack ou de quelque chose comme ça, où tout le monde pourrait rejoindre et avoir accès justement aux projets, aux fiches, les réaliser eux-mêmes, avoir la correction, pouvoir accéder au projet, voir le code qui est fait, poser des questions, qu'on puisse discuter tout ça via un abonnement. Et du coup, le fait que voilà, ce soit un truc de groupe, l'abonnement serait à un prix moins cher que si je faisais un gros cours où je parlerais de tout en long, en large et en travers. Et je me suis dit, ça pourrait être pas mal, mais à l'heure actuelle, je me sens pas encore totalement légitime pour pouvoir faire ce genre de truc. Parce que bon, voilà, j'ai travaillé un peu avec Flutter, j'ai fait un projet. C'était cool, mais pour moi, c'était pas assez poussé. Donc, du coup, je me suis dit, je vais mettre ça un petit peu en attente. Je vais retravailler sur un autre projet. Donc, je suis allé un petit peu piocher dans ma liste d'idées d'applications qui est assez longue. Je me suis dit, voilà, je vais prendre un projet un peu plus complexe que le premier, un peu plus long. Cette fois-ci, je vais le faire en Flutter et ça va engager beaucoup plus des trucs beaucoup plus complexes. Ça va être une app un peu plus complexe en soi, hein, qui demande beaucoup plus de connaissances, des trucs beaucoup plus poussés. Et je me suis dit, voilà, une fois que j'aurai réalisé ça, donc ça va me prendre un petit peu de temps, une fois que j'aurai réalisé ça, déjà, cette app-là, je compte la rentabiliser sur le long terme. Donc, je me dis que c'est d'une pierre deux coups, parce que du coup, je fais mon application, ça me fait plaisir. Un peu plus tard, je compte la rentabiliser, et en même temps, ça me fait monter en compétences. Et
Ouais,
une fois que
carrément.
j'aurai réalisé ça, je me dis, voilà, en fait, avec toutes les connaissances que j'aurai apprises durant le temps de la réalisation de cette application et de ce que j'ai déjà vu jusqu'à présent, là, je serai capable de pouvoir faire plein de petits projets, justement, pour aider des débutants. L'objectif, c'est d'aider les débutants et pas des personnes confirmées, parce que du coup, je pense qu'à l'heure actuelle, du moins en Flutter, je ne suis pas assez confirmé pour pouvoir dire à une personne, voilà, tu devrais faire ça, ça. Mais pour des pardon. Pour des débutants, ça pourrait être pas mal. Donc c'est un petit peu les deux projets que j'ai en parallèle pour les prochains mois. Donc une application un peu plus poussée en Flutter et ce projet de, je sais pas trop comment appeler ça, de mini-projet collaboratif, quelque chose dans le genre, quoi.
Ok, ouais, trop bien. Et donc là, c'est des projets en cours. Est-ce que pour les gens qui seraient intéressés par ça, est-ce qu'on peut déjà enfin trouver un peu ce que tu fais à l'heure actuelle en ligne? Et puis éventuellement, du coup, si on te suit là-dessus, qu'on serait des plateformes sur lesquelles on serait au courant des avancées de ces projets-là?
Yes, principalement Instagram, même si dernièrement je suis pas très très actif justement, mais donc principalement Instagram, donc c'est _Borambo, et c'est pareil un petit peu sur YouTube, moins présent sur YouTube, mais j'y suis, enfin j'essaie d'y être du moins. Donc principalement voilà Instagram et YouTube, j'ai aussi une page Facebook et un Twitter, mais j'y suis quasiment jamais. C'est juste des liens automatiques générés par rapport à ce que je poste sur Instagram et YouTube. Donc la plateforme à privilégier principalement Instagram, là où je suis le plus actif, quoi.
Ok, bah de toute façon je mettrai le lien dans la description de l'épisode, comme ça les gens pourront à la limite juste comme ça te contacter et échanger si t'es ok. Trop bien, bah du coup je pense qu'on a une bonne vision un peu de ce que tu fais, ta vision enfin j'allais dire ta vision du freelance, mais non, ta vision en fait de la vie entre guillemets, en tout cas de la vie pro, et donc ça c'est cool. Dernière petite question, est-ce que t'aurais une ou plusieurs ressources qui t'a inspiré, je sais pas moi, que ce soit un livre, une série, un film, peu importe, quelque chose qui t'a inspiré et que t'aimerais partager aux auditeurs?
En général, ça va être mon film préféré, du coup, qui est À la recherche du bonheur, donc Pursuit of Happiness avec Will Smith. qui m'a pas mal inspiré dans le sens où, bah, en fait, pour ceux qui ne connaissent le film ou mais qui ne connaissent pas du coup, c'est bah, voilà, Will Smith qui commence un petit peu au bas de l'échelle et qui essaye bah, de se faire une place, pour pas trop spoiler, hein, qui essaye de se faire une place et de travailler pour subvenir aux besoins de sa famille. Et du coup, bon, en fait, on le voit galérer tout le long du film pour au final réussir. Et je me fais un petit peu cette petite ressemblance entre guillemets avec moi, où je me dis, bah voilà, j'ai commencé entre guillemets au bas de l'échelle, où bon, bah, j'ai fait mes petites études, j'avais pas de ressources, j'avais pas de réseau ni rien, et petit à petit, en fait, avec du travail, tu peux te faire ta place et réaliser ce que tu as envie de réaliser, quoi. Donc c'est un petit peu ça qui m'a motivé.
Ok, trop bien, effectivement, ce film-là, je l'ai vu il n'y a pas si longtemps que ça, et ça m'a aussi pas fait un déclic, mais c'est vrai que ouais, j'ai beaucoup apprécié ce film. Ok, top, bah merci beaucoup Erwan, en tout cas, d'avoir partagé ton retour d'expérience, et puis bah, on voit qu'il y a pas mal de projets en cours et en attente, du coup, bah ouais, avec plaisir, hein, si jamais tu veux revenir sur le podcast pour parler de tes nouveaux projets, ce serait avec grand plaisir.
Bah, pas de souci, bah, je te remercie déjà de m'avoir invité et avec grand plaisir je reviendrai, quoi.
Merci à toi Erwan, salut. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à nous donner votre avis avec une note et un commentaire, ou même à partager l'épisode sur vos réseaux sociaux ou à votre entourage qui pourrait être intéressé. Ça nous aide énormément à nous faire connaître et à partager ces retours d'expérience à davantage de monde. En tout cas, merci pour votre écoute et moi je vous dis à la semaine prochaine.